Le théâtre d'Arras accueille aujourd'hui à 18h la dernière représentation du spectacle jeune public « Mange-moi ». D'après l'œuvre de l'auteur jeunesse Nathalie Papin et mise en scène par Stéphane Boucherie en coproduction avec le théâtre de l'Embellie. L'histoire raconte les aventures d'Alia, une petite fille boulimique fuyant l'école pour ne plus entendre constamment les railleries et les insultes de ses camarades sur son obésité. Lors de son périple, elle rencontre un ogre, rejeté par les siens parce que lui est anorexique. Celui-ci, par dépit ne voulant plus manger d'enfants, se condamne à se repaître d'étranges choses comme l'horizon, des paysages ou encore des nuits étoilées. Alia décide de l'aider et doit se rendre dans les contrées habitées par quelques dévoreurs de choses afin d'en repartir avec de la nourriture pour son nouvel ami. Par le biais de ce spectacle ancré dans un imaginaire très fort, les thèmes de la différence, de l'exclusion et du rapport à l'autre sont largement évoqués, de manière parfois drôle, parfois énigmatique, mais non sans humour. Les différentes techniques théâtrales employées, panneaux mobiles, vidéos, jeux d'ombre et de lumière, ainsi que des acrobaties en tout genre, quant à elles, renforcent la richesse de cet imaginaire. Lors d'une représentation scolaire qui avait lieu hier au théâtre d'Arras, nous avons rencontré Henri et Cécile, les comédiens, mais aussi Pierre Boucherie, le metteur en scène. On évoque avec eux les thèmes abordés dans ce spectacle vivant, les techniques utilisées pour laisser libre cours à l'imagination du spectateur, les méthodes de travail des comédiens, et ces mêmes comédiens nous expliquent d'ailleurs, dans un premier temps, pourquoi ils ont été choisis pour ces rôles.
En réalité, oui, moi j'ai une formation de cirque qui date hein, déjà, qui commence déjà à dater d'une bonne dizaine d'années et qui me permet sans doute d'avoir une conscience et une maîtrise du corps qui me permet de me suspendre à l'envers, mais ça n'a rien de très technique, ça n'a rien de prouesse circassienne. Ça a d'ailleurs été plus envisagé comme comment raconter un moment assez spécial qui est le moment de la rentrée de Alia, du personnage d'Alia, dans le ventre de l'ogre. Et comme c'est compliqué de rentrer dans le ventre de quelqu'un, puisque Henri n'était pas d'accord pour une dissection quotidienne, voire bijournalière, c'est ça qu'on dit, bi-quotidienne. Et ben, donc on a trouvé cette solution qui était intéressante.
Non, mais sinon, sur ce spectacle-là, comme il y a un univers qui est quand même un univers assez onirique, Stéphane a cherché aussi des comédiens qui travaillent beaucoup dans le corps aussi, quoi. Voilà, c'est sûr. Moi, je trouve que de toute façon, tout travail de comédien, c'est un travail qui part du corps. Mais nous, on est un peu physique, quoi. Voilà, on est un peu physique. Et c'est une des raisons pour lesquelles Stéphane, je crois, a voulu travailler avec nous.
Bah oui. Oui, tout à fait. C'est vrai que, j'ai envie de dire, une des thématiques du spectacle, hein, parce que la question de la boulimie et l'anorexie, pour moi, est un prétexte. Hein. Mais malgré tout, c'est vrai qu'on a donné, comme ça, par Nathalie Papin, comme préambule, ce rapport au corps qu'a Alia, un rapport difficile à son corps, l'ogre avec un rapport anorexique. Voilà, donc, bon, ça on pouvait se dire pourquoi pas. Mais vraiment, ce qui m'intéressait, c'était qu'on puisse aller explorer d'autres langages qu'uniquement le langage verbal, voire psychologisant. Parce qu'il y a aussi une charge forte, quasi psychanalytique dans ce texte, hein, et sans vouloir du tout la gommer, mais absolument pas, parce que c'est une chose qui me passionne, j'avais envie aussi d'ouvrir à autre chose qu'à un théâtre psychologique. Donc, d'où l'apport de langage comme l'ombre, la vidéo et évidemment le corps dans ce qui peut permettre d'invention, ce qui peut permettre de transposition, dans ce qui peut permettre aussi tout d'un coup un autre mode d'expression qui serait simplement l'expression verbale. Quoi.
Ce choix de l'œuvre de Nathalie Papin, quelles choses ont été rajoutées qui ne sont pas dans le bouquin et que vous avez, vous, amélioré et tenté de développer sur scène?
Nathalie Papin est auteure de théâtre. Elle passe, je crois, un temps considérable à construire, à écrire ses pièces. Et d'une certaine manière, et plus elle avance dans son écriture, plus ça s'affirme, a gommé énormément, à la manière de Beckett, d'enlever. Et donc, effectivement, je crois que pour Nathalie, le mot a quasiment un pouvoir magique. Voilà. Donc, chaque mot est pesé, choisi. Il n'y a pas d'adaptation. Par contre, Ce qu'on a fait dans ce texte-ci, et qui était un des principes de mise en scène, c'était de que soit dite sur scène ce qu'on appelle les didascalies. Alors, c'est un mot un peu barbare. Simplement, ce qu'on appelle les didascalies, c'est ce qui est souvent écrit en italique ou entre parenthèses, c'est les indications de l'auteur qui permettent au lecteur, voire au metteur en scène, d'imaginer ce qui peut se passer. Généralement, cette didascalie n'est pas faite pour être dite sur scène, voilà, mais simplement pour être transformée voilà, en mouvement ou en image. Et une des idées de la mise en scène, c'est d'en fait, d'en même temps montrer le théâtre en train de se faire et de faire énormément appel à l'imaginaire du spectateur. Donc on dit, il y a une cour de récréation, il n'est pas besoin de fabriquer une cour de récréation. Et ce qui nous permet aussi de ne pas être prisonnier de représentations qui auraient été réductrices par rapport à l'œuvre. Parce que comment effectivement faire rentrer une comédienne dans le ventre d'un comédien, comment manger un horizon. Donc on est dans un univers onirique qui se développe, et d'une certaine manière, par la mise en scène, on essaie de faire confiance aux capacités d'imagination du spectateur. On lui dit, il se passe ça, on lui donne quelques signes, et c'est lui qui fabrique le spectacle et l'image dans sa propre tête. Donc la didascalie nous servait à mettre ce processus en route. C'est la seule entorse, j'ai envie de dire, par rapport à l'écriture de Nathalie, et quand elle a vu le spectacle à Rouen, elle en était tout à fait convaincue, quoi.
Alors pour les comédiens, donc tout ce qui se passe sur scène, les jeux d'ombre, etc., je suppose qu'il y a quand même une préparation assez intense. Comment vous faites pour travailler ces disparitions de membres, ces réapparitions, etc.? Est-ce qu'il y a des chorégraphies qui sont organisées, un timing à respecter, des repères surtout?
En tout cas, on a bossé avec un chorégraphe qui nous a beaucoup aidé, qui est Cyril Vialon, qui est un super chorégraphe, mais qui en plus participe à pas mal de mises en scène comme ça. Il est assistant à la mise en scène en tant que chorégraphe sur pas mal de projets.
Il s'adapte en fait finalement à la demande, et même si a priori c'était pas son rayon d'explorer les ombres, ben on a travaillé dessus. Stéphane avait aménagé quand même 8 semaines de répétition, qui est aujourd'hui assez exceptionnel et confortable. Donc on a exploré ce dispositif, ce langage. On a aussi quelqu'un, Olivier Floury, qui a travaillé sur des boîtes à ombres pour nous permettre d'avoir des très très jolies, très belles ombres, et de travailler sur l'échelle. Et là, après, Stéphane a choisi les images qui l'intéressaient, qui étaient... Et puis oui, c'est comme une chorégraphie dansée. Oui, il y a un timing qui correspond à une musique, à une écoute, à une narration. Donc voilà, c'est au même titre qu'un texte qu'on apprend. On apprend aussi des déplacements et une manière de se mouvoir.
Et vous parliez tout à l'heure que le spectacle, chaque fois qu'il est joué, c'est jamais le même exactement.
C'est jamais exactement la même chose. Parce que le plateau n'est jamais le même.
Mmh. Ici, donc, vous servez vraiment de l'espace
Oui. Le théâtre, ici, au Théâtre d'Arras, on va jouer 3 fois. La fois précédente, on a joué sur un plateau qui faisait facilement 2 mètres de plus, je crois, en largeur. Ici, c'est plus étroit. Enfin, on s'adapte tout le temps. Donc, les déplacements ne sont pas les mêmes. Le rapport au public n'est pas le même. Ici, le rapport est génial, par exemple. Tout varie tout le temps, quoi.
C'est ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on appelle ça du spectacle vivant. C'est que nous, d'une part, nous sommes vivants et qu'on travaille aussi avec nos humeurs. Même si on a des lignes de jeu à suivre, on est comme on est, on s'est levé ce matin, on a bu du café comme tout le monde, et on va aussi effectivement recevoir l'accueil du public qui va nous aider à être au plus juste. En fait, on cherche à être dans un moment précis avec le public, donc forcément c'est jamais les mêmes réactions, aussi en fonction de l'âge. Là, c'était des enfants qui étaient assez
mûrs, on va dire ça.
Assez grand, ouais.
Assez grand, ouais. Comme mur, assez grand.
Et du coup, on sentait qu'ils étaient vraiment à l'écoute, ils recevaient le texte. Je pense qu'ils le comprenaient, parce que c'est quand même un texte assez compliqué. Et je pense que c'est d'ailleurs aussi pour ça que c'était intéressant de travailler l'image, parce que c'est un texte compliqué et qu'il nous a fallu, il nous a fallu un sacré paquet de temps pour le comprendre. Non, mais il y a des images, il y a des spirales dans le texte qui font que c'est... On se dit, dis donc, ça va être difficile à transmettre.
Hé, la grosse, si tu manges ton gâteau, tu vas éclater. Oh. Une lettre. Chérie. J'ai mis ton goûter ce matin dans ton sac avant de partir au travail. T'es bizarre! T'es tellement moche que personne ne voudra de toi!
Les thèmes qui sont évoqués dans la pièce jouent forcément sur la personnalité des personnages et l'évolution de leur comportement. Le metteur en scène laisse-t-il une part d'improvisation sur scène? Comment a été conçue la bande sonore? Mais surtout, quelles sont les réactions du public? Comédiens et metteurs en scène nous donnent leur avis en s'appuyant sur le personnage d'Alia.
La thématique, évidemment, n'est pas simple. D'un côté, la boulimie et l'anorexie. Et est-ce que, justement, ça vous est arrivé de rencontrer un public qui était malheureusement concerné et qui est venu vous voir après pour vous dire « je me reconnais, je me reconnais pas » ?
Si, une fois, mais c'est surtout... Enfin, moi, je trouve que ça traite de ça. Évidemment, c'est les portes d'entrée. Mais moi, je trouve que ça traite plutôt de la différence et de l'exclusion par rapport à la différence.
Voilà. Oui, donc effectivement, il y a une dame un jour qui est venue nous voir en nous disant « Je me suis retrouvée dans cette situation-là ».
Elle avait un défaut de prononciation, je crois, c'est ça.
Voilà, un petit souci d'élocution. Et du coup, je pense qu'elle a bien morflé quand elle était jeune. Et la scène du début, d'ouverture de la pièce, c'est une scène de violence, de moquerie, d'exclusion, de raillerie, de... veut. Et donc c'est vrai que moi aussi je trouve que c'est un spectacle qui parle plus de comment se situer par rapport à l'autre, comment être soi dans sa différence au regard de l'autre. Et c'est l'autre qui finalement te fait ressentir ta propre différence ou au contraire l'accepte et t'aide à t'aimer.
C'est aussi la découverte aussi de l'autre et en même temps un peu le dégoût de soi, j'ai l'impression. Sur certains passages, on a l'impression vraiment que c'est un petit peu le dégoût de soi quand même.
Ah ben, je pense que ce texte parle de la difficulté de s'accepter et on le sait, tout un chacun a quand même aspire à être un petit peu différent de ce qu'il est. J'ai les cheveux longs, je voudrais les avoir courts, je les ai frisés, et de nos jours c'est difficile de trouver sa place, je crois. Et c'est pour ça que c'est un spectacle qui est intéressant, parce qu'il amène quand même sur la table un sujet qui est, les enfants, il va falloir prendre votre place, ça va pas être facile. donc voilà, bon courage.
Moi, ce qui m'a intéressé aussi en filigrane, c'est à partir du moment où Alia, d'une certaine manière, n'est plus tournée vers elle-même, mais est tournée vers l'ogre, puisqu'elle est tout d'un coup, elle se met en mouvement, non pas pour se sauver elle-même, mais c'est à partir du moment où elle part sauver quelqu'un d'autre, qui est son ami, et où elle part affronter des dangers, etc., que d'une certaine manière, elle sera transformée et qu'elle deviendra différente aux yeux de cet ami et, après ça, à ses propres yeux.
Et vous, en tant que metteur en scène, donc, est-ce que si les comédiens improvisent, est-ce que vous vous en servez aussi pour dire finalement c'est peut-être une bonne méthode également ?
Évidemment, ils peuvent en témoigner. Il y a ce qu'on appelle des notes. Là, tout à l'heure, j'étais au fond. Toi, t'as 18 aujourd'hui. Toi, t'as pas la moyenne. Donc, c'est quelques notes. Alors, ça va être des notes liées au lieu. Ça va être au technicien. Tiens, le micro va être plus fort, moins fort, etc. Quelquefois, effectivement. Alors, la part d'improvisation, moi, je vais parler plutôt d'interprétation. Parce que l'improvisation est relativement... est très, 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 très contenue. Puisque le cadre du texte, des chorégraphies, etc., fait que... Mais il reste évidemment sans arrêt du vivant, et on se voit après, d'ailleurs on se voit après, je dis, ce moment-là, je l'ai jamais entendu, cette réplique, je l'ai jamais entendu comme ça, oui, c'est riche, continue, ou aujourd'hui, j'ai été moins sensible à ce moment-là. Oui, bien sûr, on change le spectacle précédent, par exemple, Le Pays de Rien, je crois que c'est à la 100e ou 110e, où j'ai même dit, attendez, on se prend une heure de répétition. Il y a une chose qui, je crois, je n'avais pas encore résolue. Je crois que j'ai trouvé la solution. Et il a fallu plus de 100 représentations. C'est pas toute la pièce, hein. Mais c'était un moment assez déterminant. On a repris une heure de répétition et on a même changé un peu la bande-son, etc. Bien sûr, c'est une des chances du spectacle vivant, c'est d'être en évolution permanente. Et puis en plus, le fait que Cécile et Henri joue le spectacle longtemps, ça c'est quand même une chance qu'on a de le jouer de nombreuses représentations, ben il y a une stratification qui se fait chez eux, il y a une densification des personnages, ce qui fait qu'il y a d'autres portes d'une profondeur et d'une richesse, comme une toile sur laquelle on ajoute des couches et qui prend une espèce de profondeur, quoi. Donc effectivement, c'est sans fin.
Et vous évoquiez la bande sonore, la musique qu'on entend lors du spectacle, c'est une création originale ?
Ouais, c'est une création originale d'un compositeur qui s'appelle Olivier Martin. Et dans le processus de répétition aussi, qui est présent quasi quotidiennement pendant un mois. Donc qui amène son univers musical, qui interagit. Moi, je me souviens de moments où Cécile ou Henri disaient « Ah, à ce moment, j'adore » ou « Tiens, moi, je ne suis pas tellement convaincu ». Et voilà, on en parle ensemble. Mmh. C'est aussi un travail d'équipe. Hein, ça se fait. Enfin, pour moi, le théâtre, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait vraiment, vraiment en équipe. Et puis, il a cette capacité d'arriver avec des machines dans lesquelles il y a quantité de sons. Et je lui dis, étant là, j'ai envie d'une ambiance de récré, il m'en sort 15 000, une sonnerie, il m'en sort 12, et voilà, et comment et à quel moment on la met, etc. Et donc, en fait, la bande-son répond à deux grandes exigences. La première, qui va être de créer un décor sonore. Là, on est plutôt sur de l'univers bruitiste. Et sur son second plan, va créer des lignes mélodiques et susciter des émotions, accompagner l'action et être le reflet des affects des personnages, par exemple. Voilà. Et ça se construit vraiment, vraiment aussi in vivo sur le plateau, quoi, dans la boue de la répétition. Quoi.
Vous avez rencontré à l'issue du spectacle le public, en l'occurrence là c'était un jeune public, vous leur apprenez des choses forcément puisqu'ils posent des questions qui sont parfois même très intelligentes. Est-ce que vous, par leurs questions, vous apprenez également aussi pour améliorer votre jeu ou la perception du jeu ?
Oh bah bien sûr, on apprend toujours par le regard de l'autre. Et puis, quelquefois, il y a même des petites remarques très pertinentes. Là, il y en a une.
On s'est bien fait avoir une fois.
Une fois, on s'est carrément fait avoir. Et d'ailleurs...
Non, elle nous a vachement aidé, cette remarque.
Oui.
C'était une remarque de logique. Cette jeune fille, elle disait quelque chose en toute logique. Elle disait...
Elle avait remarqué tu mangeais une feuille du dictionnaire qui comportait le mot... dévoré, et à la fin, moi, je reprenais le dictionnaire et je lisais la page dévorée. Et elle me disait, mais c'est pas possible, puisqu'il l'a mangé au début. Et on était là, tu as raison, tu as raison. En général, c'est très intéressant, la discussion après le spectacle. Bon, plus ils sont grands, plus c'est intéressant en général. Après, il y a une naïveté, une poésie.
Ouais, on leur apprend des choses, ils apprennent des choses différemment, mais ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent retravailler avec les instits, quoi. Ça, c'est vachement bien, quoi.
En tout cas, nous, si
ou
on
les profs,
a...
parce que là il y a je crois qu'il y avait des gens de collège aussi.
Du collège ce matin.
Moi, si j'ai envie de leur donner, leur transmettre quelque chose, c'est tout est ouvert, allez-y, foncez. En tout cas, par rapport au métier, parce que quelquefois, il y a des questions qui concernent le métier. C'est pas un métier facile, mais il y en a aucun, hein, je crois qu'il l'est. Et c'est ouvert, quoi. Et il n'y a plus qu'à prendre sa place, comme dans la vie.
Pour clore définitivement ce sujet, quelques enfants présents ont bien voulu s'exprimer sur le ressenti de la pièce.
Bah, ça parle d'une fille, Alia, et elle va à l'école et elle se fait traiter par tous ses copains et copines.
Alors, pourquoi elle se fait insulter par ses copains et copines ?
Bah, parce qu'elle est grosse et elle est boulimique.
Ouais.
Bah, elle s'enfuit de l'école et elle rencontre un ogre. Et il dit qu'il n'arrête pas de manger l'horizon et il ne fait plus manger les enfants. Donc il dit il se mangera lui-même. Et elle veut se sauver, donc elle fait un parcours et elle rencontre des autres personnes.
Et tu sais pourquoi il veut se manger lui-même ?
Bah, il n'aura plus rien à manger après s'il mange tout l'horizon. Puis ça ne le nourrit pas, l'horizon.
Bah, il y a eu les mangeurs de mémoire. Il y a eu l'œil, les dévoreuses de livres.
Mais j'adorais, ils faisaient à peu près la même taille. Et quand ils étaient derrière, le monsieur, il était vraiment plus grand que la fille.
Bah,
comme s'il prenait un manteau, puis il était trop grand pour lui, du coup il enlevait ses manches, il enlève tout, puis voilà. Il faisait toujours ça. Il prenait un gros manteau, puis après il s'enlevait du manteau pour faire une idée de partir de son costume.
On a même eu la chance de rencontrer une jeune demoiselle qui a également tenu le rôle de l'héroïne de la pièce, Alia, dans une autre adaptation.
Bah, ça fait bizarre. Ça montre comment ils la jouent eux-mêmes avec leur imagination, que nous on la jouait d'une autre façon, sans moins d'effet optique, sans moins de moyens. J'ai retrouvé tes paroles que je disais moi aussi dans la scène.